Entreprises et Habitat, redonner du pouvoir d'achat immobilier aux Français. Une émission proposée par Sofiap sur Radio Immo et Radio Territoria.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Et tout d'abord, je vous souhaite une très très belle rentrée pour ceux qui sont en vacances. Vous avez beaucoup de chance. Il fait encore très très beau ici à Paris et dans les régions. Si vous allez bien évidemment vous préparer à la rentrée économique, eh bien c'est bien l'objectif du jour, puisque nous sommes le 26 août et nous sommes ici en direct de l'hippodrome de Longchamp pour justement entamer cette rentrée économique avec la rencontre des entreprises de France au MEDEF, qui est le grand raout de rentrée que nous avons chaque année. Voilà, on est très heureux d'être avec vous. Nous sommes en direct pour ce troisième numéro d'Entreprises et Habitat. Entreprises et Habitat, c'est tout un programme, puisque, bien sûr, on va évoquer les problématiques de l'entreprise dans l'attractivité à la fois des territoires, de ses activités et des problématiques du logement. Le logement, l'employeur, le logement, l'emploi. C'est vraiment une quadrature à trouver, puisque c'est un vrai sujet aujourd'hui, et notamment à la rentrée. Il faut rappeler quand même quelques chiffres. L'an dernier, on vous l'avait dit, les amis, c'était 12% des étudiants qui ne sont pas allés faire leurs études faute de logement. Et c'est 17% des contrats à durée indéterminée qui n'ont pas pu être non plus signés l'an dernier, il y a un an, quasiment jour pour jour, dans les régions, faute de logement. Pour cette émission, justement, et au sommaire, on va évoquer tous ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir le directeur général de la Sofiap qui est avec nous, Michael Lenezet. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Je vous en prie.
Voilà, un numéro très important au cœur du sujet, ici à Longchamp, avec le MEDEF. Merci, Michael, d'être avec nous. Également, nous avons Hélène Besserer qui est avec nous. Elle est responsable des ressources humaines pour Iroco.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Merci.
Alors, vous êtes un peu le témoin du jour, puisque vous allez avec nous partager vos problématiques d'attractivité pour des entreprises. Je voudrais juste souligner qu'Iroco est une entreprise remarquable, comme quoi, finalement, la France a un incroyable talent. Un
Merci.
Petit clin d'œil à Pierre-Antoine Burgala. Voilà, c'est dit. Et on va avancer, justement, sur ce sujet. C'est parti, donc, pour le sommaire de l'émission avec les problématiques autour du logement. On va en parler, bien évidemment, dans un contexte qui est éminemment politique. Et vous savez de quoi je parle, puisque on est encore en quête d'un nouveau gouvernement. Voilà, c'est le sommet. Et on va passer tout de suite à notre seconde séquence. C'est l'édito qui va être réalisé par notre ami Michael Lenezet. C'est tout de suite après ça.
Entreprises et Habitat, une émission proposée par Sofiap sur Radio Immo et Radio Territoria.
Michael, avant votre édito, je voudrais qu'on fasse un petit peu un point d'activité, si vous voulez bien, en préambule, de faire un petit peu le rappel des deux mois qui viennent de s'écouler. On s'est quitté au mois de juillet, à l'aube d'une trêve estivale olympique, avec une très très belle réussite des Jeux Olympiques. Ça a été fructueux d'un point de vue sportif. Bien évidemment, après la débâcle vécue par l'exécutif, qui a été quand même assez violente, avec les élections européennes, les élections législatives, la dissolution de l'Assemblée nationale, qui nous plonge dans une situation finalement assez inédite. Et on a rappelé, Gabriel Attal, Premier ministre démissionnaire, le gouvernement actuel, trouve que la question du logement, c'est bien qu'il se pose la question en fin de parcours, mais enfin quand même, il se pose la question du logement. Est-ce qu'on a pris ou pas les bonnes décisions? Et ça serait un sujet qui doit être discuté. On avait même assisté à un mea culpa absolument surréaliste de Bruno Le Maire en disant que s'il y a une chose qu'il avait ratée, c'était le logement. Bon, j'étais dans la salle quand il l'a dit, donc j'ai trouvé ça un peu surréaliste. Le logement, c'est le premier marqueur social des Français. Et bien évidemment, le dernier ministre très éphémère, Guillaume Kasbarian, avait mis en place des actions qui n'ont finalement pas vécu très longtemps,
non.
Puisque tout est aujourd'hui à l'arrêt. Michael, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, justement, sur cette problématique et le message que vous souhaitez porter?
Alors, le message, c'est simple, c'est que les chiffres sont assez alarmants depuis l'année, puisque même si le marché avait déjà dévissé de quasiment 40% en termes de production de crédit immobilier en 2023,
c'est énorme.
On est encore à moins 30 cette année, même s'il y a un léger frémissement en juin. Et je pense que la situation, en fait, elle est encore plus compliquée, puisque, j'ai envie de dire, le marché est presque à l'arrêt, puisque quand on a, sans faire de politique aucun, mais on a une déclaration de différents partis qui annoncent des suppressions de frais de notaire pour des primo-accédants, des révisions de prêts à taux zéro. Bah, tout ça entraîne le fait qu'aujourd'hui, quand je suis primo-accédant, j'ai surtout envie d'attendre parce que je ne sais pas à quelle sauce je vais être mangé et comment je vais le faire. Il faut quand même se rappeler que cette situation-là, aujourd'hui, plus de 50% du marché de l'accession à la propriété, ça concerne des primo-accédants, donc des gens qui accèdent pour la première fois à l'achat immobilier. Et donc forcément, tous ces gens-là attendent. Ce qui fait qu'en termes de grands chiffres, c'est vrai que là, on a connu des années très fastes où on vendait un peu plus de 1 200 000 maisons ou appartements anciens. On va sans doute atterrir à 800 000, 850 000. En tout cas, c'est comme ça qu'on le prévoit. Là où il y avait quasiment 400 000 logements neufs qui étaient construits, on va sans doute être un peu plus de la moitié. Donc c'est une situation très compliquée. Et c'est compliqué pourquoi ? Parce que le logement, ça reste le bien de première nécessité.
C'était le point de départ de votre tribune.
Exactement.
C'est vraiment un constat. Est-ce que c'est un constat que vous faites finalement, quand on y réfléchit bien, de se dire que, vous l'avez rappelé, hein, on a rasé gratis pendant une quinzaine d'années avec des taux absolument anormaux. D'ailleurs, certains disent que qu'est-ce qui était normal ? Les taux très très bas avec de l'argent acheté à 0,60 des fois sur 10 ou 15 ans, on l'a déjà vu, ou une politique de taux beaucoup plus sereine entre 2 et 5 %. Moi, je fais partie d'une génération qui a connu des taux à 12 ans, donc on sait ce que c'est. Est-ce que, justement, cette idée qu'il était facile d'emprunter avec très très peu de moyens n'a pas finalement aussi impacté le marché, et que la reprise et que l'augmentation des taux d'intérêt, quelque part, ont déporté les projets dans le temps?
Alors, quand on parle d'argent pas cher, je veux dire, c'est une situation de marché. C'est-à-dire que c'est le marché qui détermine à quel prix l'argent est liquide. Donc, quand les taux sont pas chers, évidemment, les établissements financiers comme les autres prêtent à pas cher. Le défait pervers de situation de taux pas cher, c'est comme toute situation, c'est-à-dire le côté prix des biens achetés. Quand je parle de prix, bah forcément, ça a dopé sans doute la valeur même des biens, puisqu'aujourd'hui, on a vu des croissances de prix du mètre carré qui sont à Paris, on n'en parle pas, mais c'était au-dessus de 10 000 euros. Ça redescend un tout petit peu, mais voilà, ça a entraîné le côté dumping du prix des mètres carrés, qui ont abouti d'ailleurs à un système complètement fou où les gens qui achetaient 4 ans ou 5 ans après faisaient une plus-value à deux chiffres en termes de pourcentage. C'est ça la situation normale, c'est pas le taux, c'est ce que ça entraîne comme conséquence sur la valeur des biens achetés.
Vous savez que dans ce que vous dites, et vous avez raison, c'est presque un modèle spéculatif.
Hein. Exactement.
On s'est entraîné dans une spéculation qui a fait que l'habitat, qui est la première motivation, n'était plus la première cause. Mm. C'était la cause, c'est je fais la culbute, je caricature.
Exactement.
Sur 4-5 ans, et là, ça a finalement cuté un petit peu le marché.
Exactement.
Qu'est-ce que vous voulez faire passer dans votre tribune ? C'est quoi le message précis de la tribune ?
La tribune aujourd'hui, c'est que nous, on est une entreprise particulière, parce qu'on aide les entreprises à mettre en place une action pour le logement de leurs salariés. Et quand je regarde ce qui se passe depuis cet été, donc un marché atone, des sondages qui pleuvent les uns après les autres qui indiquent que le lien entre le logement et l'emploi est extrêmement fort.
Hein, on va en parler d'ailleurs tout à l'heure.
Ouais. Donc du coup, c'est ça le truc, c'est de se dire finalement, ce bien de première nécessité qu'est le logement, ça a des conséquences très fortes sur la société et notamment sur l'emploi qui est quand même le déterminant. Puisqu'aujourd'hui, travailler de façon décente ou avoir un emploi dans des zones qui sont plus tendues que d'autres, hein, si je regarde la carte de France, aujourd'hui, c'est assez paradoxal de voir des endroits quasiment en situation de plein emploi et qui ont du mal à recruter. Je prends le cas de la Vendée, hein, où il y a beaucoup d'emplois.
Ah oui, tout à fait.
Et peu de gens à se présenter. Pourquoi ? Parce que se déplacer peut-être de l'est de la France ou du centre de la France vers des zones côtières, bah, ça a forcément un prix. Parce que quand je suis propriétaire d'un logement et que je ne sais pas comment je vais pouvoir me loger en arrivant sur cette zone tendue, je ne fais pas l'effort de me déplacer. C'est ça le sujet, en fait. C'est de se dire finalement, Le vrai frein à la société, c'est comment on rend tout ça plus liquide et qu'il n'y ait plus de frein sur le fait de dire le premier truc de la vie, c'est d'avoir son emploi avec un logement qui soit décent.
C'est extrêmement important ce que vous dites et ça me fait penser finalement à qu'est-ce que l'habitat ? L'habitat, c'est le marqueur social, mais c'est aussi l'identité sociale dans la société. De là se déterminent finalement les enjeux de mobilité, d'énergie, de loisirs, de culture, propices finalement à la réussite des personnes. C'est pour ça qu'il y a un lien très étroit entre le logement, bien sûr, et l'entreprise. Moi, ce que je vous propose, Michaël, c'est d'en débattre avec notre témoin, parce que justement, on va parler entreprise, et la problématique, croyez-moi, mais ça, vous le savez déjà, elle est vraiment réelle aujourd'hui, et on peut même dire que les chiffres, aujourd'hui, sans faire d'alarmisme, sont quand même très inquiétants. Encore une fois, une deuxième année consécutive avec des tragiques chiffres qu'on a commentés pour l'an dernier. On se retrouve tout de suite pour le débat.
Entreprise et Habitat, une émission proposée par Sofiap sur Radio Immo et Radio Territoria.
Voilà, de retour sur le plateau. On est ici en direct à Longchamp pour la rencontre des entreprises de France, numéro spécial d'entreprise et habitat avec Michaël Lenaise, directeur général de la Sofiap, et Hélène Besserer, qui est responsable administratif et financier et DRH de Iroco. On en a parlé tout à l'heure. Hélène, c'est un vrai sujet aujourd'hui, d'attractivité. notamment pour les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire. C'est une galère totale.
C'est une galère. Alors, il y a deux axes. Le premier axe, c'est, comme l'expliquait à juste titre Mickaël tout à l'heure, c'est le logement. Clairement, les gens ne trouvent pas à se loger. Alors, en plus, nous, on est sur Paris. Donc, ça ne nous facilite pas la tâche en termes de logement.
C'est moins qu'on puisse
clairement.
Dire.
Le logement, donc nous on accepte que nos salariés puissent éventuellement vivre un peu plus loin, leur accorder du télétravail, etc. On est extrêmement flexible là-dessus. Mais la deuxième problématique qui est aussi très complexe, c'est qu'aujourd'hui, un package salarial, c'est plus du tout le salaire fixe et puis le ticket resto. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
oui.
On ne va pas mentir, le candidat, il arrive en nous demandant un package salarial quand même un peu plus étoffé que ces deux simples choses. Donc aujourd'hui, on a le salaire fixe, éventuellement invariable, l'épargne salariale qui nous est demandée, le ticket resto, le forfait mobilité pour se déplacer, et le logement est également un sujet qui peut être inclus dans ce package salarial. C'est-à-dire que ça peut faire partie de l'attractivité d'un poste.
Alors,
à part entière.
Je voudrais qu'on... pour nos éditeurs, que vous rappeliez le contenu d'Iroko. Iroko,
ouais,
c'est une entreprise.
Alors, Iroko, c'est une fintech de l'épargne. Tout à fait. On fait de l'épargne immobilière. Donc, c'est une entreprise où les épargnants peuvent placer leur argent. Et Iroko va ensuite acheter des actifs qui permettent aux épargnants de toucher une rémunération sous forme de dividendes. Aujourd'hui, on a à peu près 600 millions d'actifs sous gestion et à la fin de l'année, on aura 1 milliard d'actifs sous gestion. On a bien
évolué, on est content. Pour une
entreprise
qui a 6 ans, je crois.
4.
4 ans.
Dans la quatrième année. On est dans la quatrième année.
Une très, très belle entreprise.
Effectivement, fort de succès. On a voulu, justement, nous, faisant de l'épargne immobilière, on a voulu impacter, on a trouvé que ça faisait sens d'impacter aussi nos salariés dans l'immobilier. Ça aurait été très dommage de faire de l'épargne immobilière. Dans l'épargne immobilière, il y a immobilier. De pas initier aussi nos salariés à cette notion immobilière.
D'où, excusez-moi, oui, on va... Voilà, on va... Les aléas du direct, les amis. Vous savez, quand j'étais gamin, je disais, vous savez, quand je regardais la télé, j'entendais les animateurs disant, c'est les aléas du direct.
Les aléas du direct.
Est-ce que, pour être très clair, est-ce que le télétravail est une solution alternative, je m'explique, qui ne gomme pas le besoin de logement?
C'est effectivement, vous avez tout à fait raison, Sylvain, c'est une solution alternative qui ne gomme pas le besoin de logement, parce que le besoin de logement, ça s'inclut plus dans la famille du salarié. C'est vraiment sa famille, c'est là où il va loger ses enfants,
voilà,
on rentre dans la vie privée.
C'est le lieu
de
l'intime, c'est le lieu où les projets vont
Exactement.
Se faire, où la famille va se développer.
Et ça, le télétravail ne le fait pas.
C'est clair.
Donc le lieu, Mickaël parlait tout à l'heure de primo-accédant. On se retrouve avec des primo-accédants qui attendent, clairement, ou tout court, qui partent de l'endroit où ils ne peuvent pas acheter ou de l'endroit où ils travaillent, puisqu'ils ne peuvent pas acheter pas trop loin de l'endroit où ils travaillent.
D'ailleurs, le télétravail a été une mesure, finalement, d'inéquité sociale, parce qu'on n'a pas tous le même habitat.
Non.
Et quand on vit avec deux enfants en bas âge, dans 55 mètres carrés dans le centre de Paris, je peux vous dire que c'est une galère. Et d'ailleurs, on le voit bien à quel point c'est la dimension de l'habitat est sortie de la dimension j'achète à tel prix ou tel mètre carré, le lieu finalement de l'intime. Vous avez choisi.
Et on n'a pas tous le même employeur et certains n'autorisent même pas tout court le télétravail.
Absolument. Et d'ailleurs, c'est un vrai sujet aujourd'hui au niveau de la vision managériale de l'entreprise, puisque bien sûr, tout ça a fait bousculer les modes de management. Vous avez choisi de solliciter la Sofiap, qui est aujourd'hui un acteur unique en son genre, pour subventionner en total.
Alors nous, on subventionne 1% du taux jusqu'à 200 000 euros pour la personne.
Énorme.
Voilà. Donc on a pris vraiment le max, le max du taux, le max du montant.
Vous avez conscience que vous resolvabilisez les personnes dans leur projet ?
Complètement, complètement. Et c'est le but.
Est-ce qu'ils le perçoivent ?
Oui. Oui, on a vraiment des salariés qui se questionnent de plus en plus. Chez Iroko, pour répondre à la question qu'on avait tout à l'heure, la moyenne d'âge est de 28 ans. Donc on n'aura forcément que des primo-accédants. Enfin, à moins de personnes qui ont hérité d'un logement, qui sont déjà propriétaires. À 28 ans, on est primo-accédant. On a envie de construire sa famille. On a envie de mettre sa famille à l'abri, de que les enfants aient leur chambre, etc. Donc là, on est vraiment typiquement dans le sujet dont parlait tout à l'heure Mickaël. Et chez Iroko, on l'est à 300%. Et effectivement, les salariés viennent de plus en plus vers nous pour nous demander comment on se met en place le dispositif, contacte les conseillers Sofiap. On a un salarié, donc Kevin, qui l'a mis en place l'année dernière, parce que c'est tout récent, hein, du coup, avec la Sofiap.
Un dossier que vous avez traité.
Exactement. Tout à fait. Qui lui a permis d'accéder à un logement.
Voilà. Comme en fait,
est-ce qu'il aurait eu son crédit autrement ?
Alors, pas du tout. En fait, il n'aurait pas eu cette maison-là. Il aurait eu son crédit.
Non, mais il l'aurait eu moins.
Il n'aurait pas eu cette maison-là. Mais n'aurait pas eu la maison de ses rêves. Mais voilà. Là, aujourd'hui, il est logé dans la maison qu'il voulait.
Ce que je me permets de rajouter juste,
oui, bien sûr.
C'est 1% de prise en charge par l'entreprise, parce que l'entreprise prend 1% du taux d'intérêt. Pour 100 000 euros sur 25 ans, c'est quasiment 10% de pouvoir d'achat en plus. Donc forcément, quand on a 10% de pouvoir d'achat en plus,
c'est une chambre de plus,
on achète plus grand, on achète plus de mètres carrés, on achète une maison différente ou un appartement différent. Et c'est le cas du salarié d'Iroco.
Ça peut être un bureau même en plus pour le télétravail. Donc c'est tout dans l'intérêt de l'employeur aussi. Enfin, c'est-à-dire qu'on a un salarié qui va être bien logé, qui va être content, qui va être dans des bonnes conditions aussi pour son télétravail. Moi, je dirais que tout le monde y gagne. Également, si on parle d'un point de vue un peu plus financier, ça a un coût pour l'entreprise. Mais nous, c'est un coût qu'on a choisi décemment de prendre en charge parce que c'est aussi une question d'attractivité. Et aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure en démarrant cette émission, on a du mal à attirer les talents, on a du mal à les garder. Donc, il y a une notion d'attractivité et il y a une notion de rétention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le salarié, il garde cette prise en charge des 1% tout le temps qu'il est salarié et il la perd quand il quitte l'entreprise. Bon, après, on
ne
va pas conserver les gens comme ça, mais...
Je trouve ça génial parce que, c'est hyper ingénieux.
Bien sûr.
Je veux dire, forcément, on va rester plus longtemps parce que la durée de détention moyenne en France pour la primo-accession, c'est entre 7 et 10 ans. Entre 7 et 10 ans. Donc, on peut espérer effectivement avoir une rotation. Alors, justement, est-ce qu'on peut parler chiffres, justement, pour qu'on comprenne bien et qu'on dise aux entrepreneurs qui nous écoutent et qui sont interpellés par le sujet, parce que c'est un des sujets majeurs qui va être évoqué ici à Longchamp avec la REF et les politiques qui vont venir. Combien ça coûte ? Voilà, j'ai un taux d'intérêt à 4%. L'entreprise peut prendre quel taux d'intérêt au maximum ?
Ce qu'elle veut. En fait, c'est complètement libre. C'est-à-dire que,
on écrit ce qu'on veut dans la convention.
Elle peut prendre 100% si elle veut. Aujourd'hui, on a des entreprises qui prennent 0,75%, 1%, 2%, 3%. Là, on est en train de discuter avec une entreprise qui risque de prendre 4% à sa charge. Alors, on fera évidemment en fonction du taux et si le taux est moins cher, on ne prendra pas les 4%. Mais voilà, en fait, c'est complètement libre. En fait, on est sur un domaine complètement privé, sous un privé avec une convention et Sofiap applique les discussions de l'entreprise. Et ce auquel je crois beaucoup, moi, personnellement, c'est de se dire qu'il faut qu'on colle à la politique RH, aux besoins de l'entreprise. Aujourd'hui, quand vous avez parlé tout à l'heure de télétravail ou même de primo-accédant, de fidélisation, l'objectif de l'entreprise n'est pas le même. En ce moment, par exemple, j'ai une entreprise, dont je ne peux pas citer le nom parce qu'elle ne souhaite pas pour l'instant et ce n'est pas signé, donc tant que ce n'est pas signé, on ne fait pas, mais qui souhaite faire une politique différente. Donc, c'est une entreprise nationale, une politique différente entre les salariés de l'Île-de-France, qui ont évidemment un pouvoir d'achat pas identique avec le reste de la France, pour favoriser le maintien en Île-de-France de ses collaborateurs, en se disant finalement le frein
ça,
est aujourd'hui. Et voilà. Et donc du coup, on colle à l'actualité.
Sinon, d'ailleurs, qui
l'entreprise partent. Qu'on avait dans l'actualité, j'ai eu la chance de participer au mois d'avril, Capital. C'était une entreprise à côté de Rennes, elle est à 30 km, elle est publique parce que là, c'est affiché sur Capital, on peut le dire. MG2Mix, c'est une société d'agroalimentaire qui fait de la recherche et développement. Typiquement, elle, le sujet, c'est qu'aujourd'hui, elle prend 3% pour 100 000 euros. Donc, grosso modo, ça fait quasiment 400 euros de gain mensuel pour le collaborateur. D'accord ?
Ça, c'est vrai.
Hein. Et elle a mis une condition qui est 30 km autour de l'entreprise. Pourquoi ? Parce que le sujet, il y avait deux sujets à traiter. C'est pour ça qu'on parle d'adaptation et de surmesure par rapport à l'entreprise. Deux problèmes. Le problème, entreprise recherche et développement, 30 km de Rennes, en pleine campagne, bon, au bord de la 4 voies. Des collaborateurs qui sont pour 70% d'entre eux en recherche et développement, donc vétérinaires, biologistes, etc. Donc sujet, ils viennent de toute la France. Comment l'entreprise arrive à les sédentariser dans cette zone-là ? Premier sujet. Donc sujet, c'est que s'ils sont propriétaires de leur logement, ils travaillent dans le coin, ils commencent peut-être à créer une famille. Enfin bref, il y a un système qui est vertueux. Deuxième point, recherche et développement. Ils se sont aperçus avec le Covid que dans le recherche et développement, l'informel est hyper important. Quand les collaborateurs sont en télétravail, on n'a pas de conversation off avec ses collègues pour savoir, tiens, j'ai découvert ça, tiens, ça marche comme ça, la molécule bidule, elle évolue comme ça. Et du coup, c'est fixer 30 km, c'est ne plus avoir de frein au fait de revenir tous les jours dans l'entreprise. Et donc, nous, on s'adapte à ça, en fait. On dit, voilà, c'est quoi votre objectif? Comment vous voulez fonctionner? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Et après, on s'adapte à la situation de l'entreprise en fonction, évidemment, de son budget, hein, parce que ça coûte un peu, mais de sa prise en charge, dans un objectif de dire, OK, politique RH, volonté de sédentariser les collaborateurs, volonté d'aider les collaborateurs, extrêmement important.
Alors, les questions... On a dit effectivement que ça coûtait à l'entreprise. Grosso modo, pour un emprunt de 200 000 euros, ça coûte combien à l'entreprise si l'entreprise prend 50% des intérêts? Imaginons, je vous donne un cas, 4%, il prend 2%. Combien ça coûte en entreprise?
Ça coûte à peu près autour de 52 000 euros à peu près.
Sur toute la durée du prêt.
Sachant que là, toute la durée, c'est partiellement faux, puisque par définition... Le primo-accédant va acheter un premier bien, il va rester 7 ans, il va vendre son bien, en acheter un plus grand parce que situation personnelle qui a peut-être...
Donc la moyenne, c'est entre 2 et 300 euros par mois de coût pour l'entreprise.
Exactement.
Est-ce que ce chiffre est assorti de charges sociales?
Alors, c'est là le truc et l'objectif de la tribune d'aujourd'hui. C'est que ça, c'est la situation que l'entreprise... Bon, il y a le bénéfice pour le salarié. Et puis, il y a le coût pour l'employeur. Le coût de l'employeur, aujourd'hui, il est chargé par des cotisations sociales puisque c'est traité comme un avantage en nature. Grosso modo, avec des histoires de plafond, on va dire que 55% de charges sociales se rajoutent au coût du truc. Et si on veut...
Donc, quand j'ai donné 100, ça me coûte 155.
Exactement. Et donc, l'enjeu de la tribune d'aujourd'hui, c'est ça. C'est de se dire, OK, on voit que c'est un bien de première nécessité qui a sans doute un lien avec le logement et l'employeur. Les employeurs qui sont prêts à y aller, puisque quand Hélène... Pour Hiroko, parle de ça, bah, l'employeur, il a envie d'y aller. Et l'effet supplémentaire que pourrait avoir l'employeur, c'est de se dire, OK, s'il n'y a pas de charge sociale, ou en tout cas, s'ils sont réduits, ça pourrait être encore un effet accélérateur. Parce que finalement, je réponds à mes objectifs, je fixe mes critères et je le
mets en place. Un accélérateur, et si je puis me permettre, peut-être potentiellement une plus grande prise en charge.
Exactement.
Puisque la part des charges patronales pourrait être répercutée sur une...
Ça serait une des règles de bon sens... De bon sens, qui ne coûte pas cher du tout à l'État, puisque on est d'accord que là, on est sur un avantage en nature, donc qui est fiscalisé socialement, bien évidemment, mais la recette, elle est que si vous payez.
Exactement.
Merci.
Donc finalement, pour l'État, en disant je ne vous serai pas fiscalisé, c'est tout bonus pour faire repartir. Parce qu'il y a un vrai sujet tout à l'heure. On a parlé justement des statistiques. Est-ce que vous avez des statistiques à nous partager, des chiffres à nous partager sur les entreprises qui ne signeront pas, qui ne peuvent pas signer de contrat à durée indéterminée faute de logement?
Je n'ai pas de chiffres précis. Simplement, c'est que je regarde ce qu'a déclaré, d'ailleurs, on est aujourd'hui à la REF, donc le MEDEF, hein, c'est que 6 emplois sur 10 n'ont pas eu lieu parce que problème de logement.
Exactement.
Si j'entends une déclaration de CPME l'année dernière, c'était 35% des emplois pas couverts faute de logement à proximité. Voilà, c'est des grands chiffres qui sortent. Est-ce que ma traduction, j'en sais rien dans la réalité, mais en tout cas, voilà.
Après, les candidats le disent pas toujours, mais effectivement, dans le package salarial...
Mais ce qui est sûr, c'est que quand on regarde ça, le dernier sondage qui est paru, c'est Opinionway, quand il y a 83% des salariés qui disent « je ne vais pas accepter un logement, me déplacer géographiquement parce que j'aurai pas de logement sur place », c'est quand même très alarmant. Ça veut dire qu'il y a quasiment 8 Français sur 10 aujourd'hui salariés qui se disent je ne bougerai pas d'emploi parce que je ne me vois pas me projeter et racheter quelque chose en proximité du... Quelle que soit la valeur du job.
Il y a une vraie similitude avec le drame du logement étudiant. Il y a une vraie similitude. Alors justement, on va entrer vraiment dans le sujet parce que les questions, elles sont quand même précises. Finalement, ça coûte l'équivalent d'un salaire chargé à moi.
Oui, c'est ça.
Peut-être même un peu moins.
Ça. Donc, en fait, quand on veut garder quelqu'un... Nous, on a pris le parti chez Hiroko, qu'on veut garder ou
fidéliser quelqu'un. C'est comme si vous donniez une prime, mais qui s'inscrit dans un schéma RH extrêmement bien construit.
Et plus intime, et la relation avec le salarié, elle est forte. Parce que là, aujourd'hui, Kevin, il est ravi d'être salarié chez Hiroko... Aussi parce qu'on lui a permis d'acheter sa maison et puis tous les autres qui achèteront, ce sera la même chose. Ah, les aléas du direct.
Voilà, on a...
Il y a un avion.
Voilà, je vais demander à Jean-Baptiste de voir si, quand ils viennent de faire un petit peu moins de trucs, surtout quand on est en émission, mais c'est pas grave. C'est les joies du dire. On est à Longchamp, je vais me prendre pour Léon Zitron, vous allez voir dans deux secondes.
Dans deux secondes. Un peu le physique, remarque.
Moi, je trouve ça hyper ingénieux, les entreprises plébiscitent votre offre. Vraiment. Par contre, je vous pose la question. Vous êtes banquier, donc c'est vous qui financez.
Exactement. On finance la totalité du projet.
Parce que justement, la question qu'on nous pose, c'est vous n'êtes pas courtier, vous êtes banquier, ça veut dire que c'est vous qui traitez les dossiers.
Ouais.
C'est vous qui avez innové dans justement cette ingéniosité du crédit subventionné. Donc, est-ce que quelque part, parce que vous avez, en tant que banquier, vous êtes soumis aux règles de solvabilité, d'engagement, d'approche des dossiers, hein, là, vous ne réinventez pas un métier, est-ce que quelque part, le fait de faire du crédit subventionné, Michael Lenezé, avec vos services, permet, j'allais dire, entre guillemets, une flexibilité dans l'approche du dossier ?
Forcément, parce que quand vous avez une échéance qui est réduite parce que vous payez moins cher d'intérêt, les fameux 200 ou 300 euros qu'on évoquait tout à l'heure, évidemment, ça joue sur le critère qui est quand même celui qui a été un peu décrié il y a quelques semaines ou quelques mois, qui étaient les normes, ce qu'on appelle HCSF, les fameux 35% d'endettement.
Oui,
donc forcément, vous passez en dessous. C'est-à-dire que quand vous êtes à 36 ou à 37 et que vous avez moins 300 euros de charges liées aux intérêts pris en charge par votre employeur, ben vous passez en dessous des normes de HCSF.
Bah, c'est donc, le cas de Kevin qui, justement, dans l'achat de sa maison, a réussi à passer sous les fourches codines des 35%, qui est quelque part une hérésie en soi quand on voit la norme, parce que 35% de 10 000 euros, ce n'est pas 35% de 2 000 euros. Voilà,
c'est tout le débat.
Voilà. Mais c'est un vrai débat. Ouais. C'est un vrai débat. J'avais posé la question aux différents ministres qui se sont succédés, à part Guillaume Casbarian, qui a été un ministre extrêmement éphémère. Ils disent, nous avons pris le parti, ils ont changé d'avis depuis, hein, de ne pas endetter plus les Français. Sauf que le logement, ce n'est pas l'endettement. J'allais dire, c'est presque un crédit inversé, puisque tout l'argent que vous payez tous les mois, bah vous l'épargnez, car vous capitalisez sur votre appartement, sur la résidence principale. Ouais. Alors la question qu'on nous avait posée justement, est-ce que c'est uniquement pour la résidence principale ?
Ça peut se faire. Alors aujourd'hui, 99% de nos dossiers, c'est sur résidence principale. Pourquoi ? Parce que les employeurs sont très pragmatiques. Si on dit dans le discours, c'est pour aider mes salariés à me loger, c'est pas pour qu'ils fassent de l'investissement locatif. ou de la raison secondaire, il faut être très clair.
Après, nous, on le fait...
Ouais. Et après, c'est le cas de Hélène.
Pour les parts de SCPI.
Ou en fait, donc nous, si vous voulez faire de l'investissement locatif, le secret, c'est Iroko.
Non, ce n'était pas ça que j'allais dire. Iroko. C'est que nous, dans la convention qu'on a rédigée avec la SOFIAP...
Non, mais j'ai regardé vos taux de rendement, ils sont franchement, c'est très attractif.
Ah, bien sûr, mais il faut épargner chez Iroko, bien évidemment.
Mais alors justement, reprenons, dans la logique, quand vous avez présenté cette offre à l'ensemble des salariés, ceux qui avaient déjà acheté quelque part, bon, ils ont dit bah, pas de bol.
Et c'est là où je voulais en venir. Ouais. C'est complètement ça, Sylvain. Et du coup, nous, on a proposé aussi une convention qui permet aux salariés qui sont déjà propriétaires de leur résidence principale ou qui ne veulent pas acheter, l'achat des parts de SCPI et Iroko.
Ah oui.
Voilà. Donc sur le même schéma, hein, on finance un pourcentage.
Vous n'êtes pas hyper nombreux hein, dans votre
on
secteur
56.
D'activité. Non, mais dans votre secteur d'activité à avoir innové sur le plan RH de cette façon-là.
Oui,
est-ce que vos collègues RH dans d'autres entreprises se disent tiens, c'est hyper ingénieux ce que tu as fait, Parlement, etc. Est-ce qu'il n'y a pas finalement quelque chose d'innovant ? Est-ce que vous ne connaissiez pas cette innovation
pas du tout. Non, dans mes anciennes entreprises et dans mon entourage.
Comment vous avez connu
Ça a été un communiqué de presse, puis ensuite un de nos fondateurs a pris contact avec Michael qui lui a très bien expliqué le dispositif et pour lequel on est un peu tombé sous le charme. On s'est dit, ça peut être très innovant. Nous, on aime les choses qui innovent. On aime tester aussi des choses. Parfois, ça fait moins sens que d'autres, mais là, ça faisait vraiment sens. Surtout quand on est une société qui fait, encore une fois, de l'épargne immobilière. Eh ben, impliquer ses salariés dans ce type de dispositif, ça faisait vraiment sens.
Et si je me rappelle bien de la conversation, il y avait aussi l'effet plateau, c'est de se dire, quand je suis une jeune société, que j'ai embauché plein de gens qui ont moins de 30 ans et que ces gens-là, par définition, ils vont peut-être réfléchir à changer demain parce que les évolutions de carrière sont peut-être un peu plus limitées.
Oui, le turnover aujourd'hui, la nouvelle génération, c'est très très rapide.
Donc c'était ça aussi, c'est traiter le sujet de la turnover, de la fidélisation, hein, très clairement, pour faire en sorte que les salariés restent le plus longtemps possible, je dirais très confort dans l'entreprise, avec beaucoup d'attachement.
Vous avez conscience, Michael, que vous avez une très forte utilité sociale ?
Alors nous, on est convaincus
de ça. En tant que banque, non, mais c'est pas une phrase de marketing. Je me rends compte puisque je dirige aussi un groupe, et donc je vois tout à fait les effets que cela a, parce que le logement aujourd'hui est arrivé à un niveau de crise qui est sans précédent. Tout à l'heure, on a parlé des chiffres. Hein. Il y a un chiffre dont on n'a pas parlé, c'est moins 40% de logements neufs produits, qui a créé une tension absolument manifeste. Est-ce que, du point de vue politique, vous attendez quelque chose, vous, Michael Nenel ?
Moi, ce que j'aimerais du point de vue politique, mais après, voilà, c'est juste parce que je suis convaincu de ce qu'on fait, c'est au moins de tester, pendant quelques temps l'exonération de charges sociales sur ce dispositif. Parce qu'en fait, moi, je rencontre quasiment toutes les semaines des entreprises, des RH, des dirigeants d'entreprises. Ils sont tous plus ou moins partants à l'idée de dire mettre en place autre chose, parce que derrière, ils rencontrent des problèmes de postes qui sont pas couverts, de choses comme ça, et qui jouent forcément sur leur développement. Et donc, du coup, puisque notre dispositif, on est les seuls et qu'on finalement, on a financé que 40 000 personnes dans l'entreprise, on est une petite filiale du groupe.
Quand même.
Mine de rien, de la Banque Postale et de la SNCF.
Et de la SNCF.
Ouais, c'est l'histoire. Et donc, du coup, une fois qu'on a fait ça, c'est de dire, testons le truc, puisque finalement, pour l'État, ça coûte zéro. Parce que, en fait, on n'annule pas de charges, on en crée de nouvelles.
Ouais. Est-ce que ça se complète avec les autres dispositifs d'aide au logement, comme Action Logement ou autre ?
C'est complètement complémentaire. Aujourd'hui, notre métier, puisqu'on est financeur, on est expert en financement immobilier, quand on a un client en face de nous, on va aller chercher le prêt à taux zéro qui a été refondu là, en début d'année pour le proposer au client, donc niveau de revenu, situation personnelle, etc. On va aller chercher le prêt d'Action Logement, puisqu'aujourd'hui, les entreprises de plus de 50 salariés y cotisent, avec une taxe sur la masse salariale. Donc forcément, on va chercher ça. Et on fait le complément. Et s'il en manque encore, on fait encore le complément du prêt.
Là, vous parlez de la participation à l'effort de construction.
Exactement.
D'accord.
Et puis surtout, le prêt accession, logement, qui aujourd'hui est un prêt...
Donc il y a une vraie complétude structurelle entre l'action d'Action Logement, groupe, qui est un organisme qui est géré par le principe paritaire, et les organisations, d'ailleurs, le MEDEF, d'ailleurs, est l'un des artisans de ça, et ce que vous faites, bien évidemment.
Complètement. On n'est pas concurrent, on est
absolument.
Complètement complémentaire.
C'est extrêmement complémentaire. Il est bientôt l'heure de nous quitter. Je voudrais qu'on fasse une conclusion sur une vision très positive. Et je voudrais vraiment vous féliciter, Hélène Besserer, chez Iroco, d'avoir mis en place ce genre de solution. Vous qui connaissez bien le monde des TPE, des PME, c'est une solution qu'il faut absolument développer parce qu'on voit bien que la dimension du logement, dans l'esprit même des jeunes, justement trentenaires, prend une dimension tout à fait différente que celle des générations que l'on a pu connaître.
Complètement. Aujourd'hui, c'est une vraie galère d'avoir sa première résidence principale. Ce n'était pas du tout le cas il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, clairement. Et oui, je le recommande parce que c'est quand même très simple à mettre en place. L'entreprise fait selon ses moyens, selon ses envies.
Absolument.
L'entreprise choisit exactement ce qu'elle veut mettre dans sa convention. C'est pas la même convention.
Et le signal pour les salariés est puissant.
Et le signal et l'attachement du salarié à l'entreprise, il est complètement différent. Vraiment, dans la mesure où l'entreprise, elle prend part à sa vie intime, sa vie privée, son engagement envers sa famille, forcément, l'attachement du salarié, il est différent.
Voilà, le secret maintenant, c'est aussi dans votre action quotidienne de votre épargne, c'est d'épargner avec Iroco. On va d'ailleurs, si vous m'y autorisez, je vais demander à ce qu'on mette l'URL.
Bien sûr, avec plaisir.
www.iroco.eu. Voilà, Iroco avec un K,
IROKO.eu.
Merci beaucoup, Hélène Besserer, d'être venue.
Avec grand plaisir, merci à vous pour
l'invitation. Et chargée des ressources humaines chez Iroco. Changez rien, parce que je pense que dans la dynamique de la vision RH, vous êtes sur une stratégie tout à fait alignée et tout d'ailleurs tout à fait compatible avec l'esprit de création des créateurs d'Iroco. Je reconnais bien l'ADN.
Ça va, si je suis dans l'ADN.
Et comme dirait un certain philosophe, rien ne saurait résister aux accents de la passion. Merci en tout cas.
Merci.
Michael Lenezet, directeur général de la SOFIAP, à vous la conclusion. C'est notre troisième opus. On voit bien que de plus en plus, effectivement, cette notion prend une dimension. Vous avez pris la main sur cette action. On a encore un numéro à venir. Qu'est-ce que là, si je vous demande de synthétiser nos propos, vous pensez avoir d'ici la fin de l'année avec le nouvel gouvernement? Quels sont les vœux que vous formulez justement?
Alors, moi ce que je formule évidemment l'envie que ce dispositif se généralise. Ça, c'est une évidence. Pas pour moi spécialement, mais pour surtout les gens qu'on aide et qu'on accompagne. Le vrai sujet, si j'en crois les différentes déclarations dernières, vous l'avez évoqué tout à l'heure, un Gabriel Attal qui écrit aux députés pour dire une des 6 priorités du gouvernement, c'est le logement.
C'est pas croyable.
Quand la semaine dernière, il y a des fuites qui sont organisées par Emmanuel Macron qui dit que le logement est sans doute un des axes futurs du futur gouvernement, je me dis, ils ont raison pour un point, sans doute un peu trop tard, mais ils ont raison pour un point, c'est qu'on est face à un mur. C'est-à-dire que quand on regarde tous les chiffres économiques,
c'est clair.
Situation de blocage, emploi-logement, entreprises qui ont du mal à recruter, difficultés de mobilité, alors que voilà, sujet quand même super important. Défaut de construction qui va faire que dans pas longtemps, on va avoir un vrai déficit et on commence à le percevoir avec les étudiants sur le fait de dire on trouve plus de logements à disposition et donc une société qui se brise en fait. C'est ça le sujet. Et donc du coup, c'est une fois qu'on a dit ça, c'est de se dire bah, qu'est-ce qu'on fait ? Soit on regarde le truc continuer et on s'enfonce, soit on prend des mesures. Et c'est pour ça que moi, mon seul message, c'est testons le dispositif tel qu'il est prévu aujourd'hui, faisons en sorte que les entreprises soient au courant, laissons les entreprises faire, parce qu'elles ont envie pour certaines de le faire, celles qui n'ont pas envie, bah, ce sera une autre situation, mais celles qui ont envie, laissez-les faire, parce que ce n'est pas un sujet anodin, on touche un bien de première nécessité. Et quand je dis ça, première nécessité, pour moi, ça révèle sur les biens de consommation,
mais
les biens de consommation en termes de TVA,
et c'est pas
ils
ne
sont pas
TVA,
taxés.
Absolument.
Exactement. Et donc, du coup, bah, le logement, c'est pareil.
Je vais vous poser une question. Est-ce que vous pourriez vous passer de sucre ?
Moi, je m'en passe.
Il faudrait. Hein.
Est-ce que vous pourriez vous passer de votre maison ?
Bah non, absolument pas.
Eh bien, la différence entre le sucre et la maison, c'est quoi ?
La nécessité.
5% de TVA pour le sucre et 20% pour votre maison.
Ah ouais.
Il y a un truc qui ne va pas quelque part. Hein. On peut dire les choses comme ça. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup votre façon d'ailleurs, d'être résolument positif, aussi sur le plan politique, et d'avoir cette vision d'avenir. Et je vais conclure sur une petite citation de Victor Hugo, si vous voulez bien, qui disait la chose suivante, « Je préfère l'avenir au passé, car c'est là que j'ai décidé de vivre le restant de mes jours. »
Je ne savais pas que c'est une émission de France Culture. En
merci Sylvain pour
voilà.
Cette
merci Hélène Besmer,
merci donc, à toi.
Directrice des ressources humaines chez Iroco. Merci à Mickaël Lenezet, directeur général de la SOFIAP. La SOFIAP que vous retrouvez avec l'URL sur le podcast, bien évidemment. Vous likez, vous partagez, vous commentez avec beaucoup de bienveillance. Vous diffusez l'information. Les entreprises aident leurs salariés à acheter leur résidence principale avec le soutien du crédit subventionné de la SOFIAP. Je le rappelle, c'est très important. Ça se complète avec les autres dispositif. Tout est dit et on se retrouve avec vous, Mickaël, pour le prochain numéro. Je vous garantis qu'on va beaucoup entendre parler de vous dans les semaines, les mois qui viennent. On reprend notre programme toujours ici à Longchamp.
Entreprise et Habitat, une émission proposée par SOFIAP, à réécouter et télécharger sur les sites et applications de Radio Immo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.